moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, ben, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Êtes-vous prêt pour un nouvel épisode de Pour moi la famille? Un podcast qui nous plonge dans le quotidien de plus de 30 familles issues de la diversité sexuelle et de genre. Pendant les deux prochains épisodes, on explore les expériences des familles LGBTQ+ qui vivent en région. Donc à l'été 2022, on a pris la route pour rencontrer 6 familles exceptionnelles.
Road trip!
Yes! Le périple a commencé par un court road trip justement vers l'Abitibi pour rencontrer 2 familles, celle de Julie et Amélie et celle de Maryse et Josée. C'est vraiment un bon avant-goût à notre ambitieux voyage vers la Gaspésie pour rencontrer 4 familles en 5 jours. Donc celle d'Annick et Nathalie, celle de Brian, Caroline et Julie et Carl et Ghislain. Tout ça a été accompli à bord d'une voiture électrique, ce qui a provoqué beaucoup de stress chez Mona.
Oui, c'est vrai. Comme les bornes de chargement sont un peu rares en Gaspésie. Mais je suis très fière d'avoir réussi cette petite tournée à 100% électrique. Aujourd'hui, on va rencontrer 3 familles. Donc, June, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces familles-là?
Bien sûr. Maryse et Josée, c'est notre première famille. Elles vont parler avec nous de leur vécu comme famille d'accueil homoparental à Val-d'Or.
Mm-hmm.
Ensuite, il y a Julie et Amélie de Rouyn-Noranda qui vont joindre à nous pour discuter de l'évolution de leur coparentalité après leur séparation.
Wow!
Puis en dernier, on va y rencontrer Brian de Bonaventure qui va être un bon pont vers notre prochain épisode où est-ce qu'on rencontre 3 familles gaspésiennes. Brian va parler avec nous de son expérience comme homme gay qui a fait son coming out plus tard dans la vie, puis aussi de comment il a fondé une famille dans un cadre hétérosexuel. Comment ces deux choses-là cohabitent ensemble. Donc, Mona, pourquoi qu'on a décidé de faire 2 épisodes spécifiquement sur les familles LGBTQ+, hors des grands centres urbains?
Et la première raison, c'est parce qu'en termes de nombre absolu, on sait qu'il y a plus de familles LGBTQ+, qui vivent à l'extérieur des grands centres urbains que dans les centres urbains.
Attends. Fait qu'il y a plus de personnes, de familles LGBTQ+, hors des grands centres urbains que dedans?
Exactement. Okay, on aurait pensé autrement, mais en fait, ce qu'on sait que... En général, les personnes LGBTQ+, qui vivent à l'extérieur d'une grande ville, vont souvent migrer vers la ville quand ils vont faire leur coming out. Mm-hmm. Mais ensuite, s'ils décident plus tard, comme quelques années plus tard, de fonder une famille, ils vont retourner en région.
Mm-hmm. Puis sûrement pour avoir plus de support familial, parce que quand tu as une famille, mais tu veux te rapprocher, si tu as une bonne entente avec ta famille, tu veux te rapprocher d'eux.
Mais oui, mais oui, c'est ça quand on pense. Mais probablement, ça coûte moins cher de vivre en région. On peut acheter une maison, un plus grand terrain. Mm-hmm. Puis la famille élargie, c'est important quand on a un nouveau-né ou même avec des enfants plus grands, c'est le fun d'avoir la famille élargie autour.
Mm-hmm. On manque jamais de bras quand on crée
une famille. C'est ça, il n'y a jamais assez.
Pour la capsule vocabulaire, on va parler avec vous de quelques termes que nos invités ont mentionnés puis que vous n'allez peut-être pas comprendre, mais on va surtout vous présenter les 3 organismes en région que ces familles représentent. Le premier terme, c'est région. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la région? Je suis allé voir dans le Larousse. C'est écrit « Un territoire dont l'étendue variable est déterminée soit par une unité administrative ou économique, soit par la similitude du relief, du climat ou de la végétation, ou soit par une communauté culturelle.
»
Très simple.
Et non. Et puis, pas nécessairement ce que nous, on veut dire par quand on dit région.
Qu'est-ce qu'on veut dire dans cet épisode-là qu'on dit région?
Mais en fait, moi, je trouve que c'est un terme un peu préjugé parce qu'on a une tendance de penser comme Montréal et Québec sont comme le centre de l'univers.
Mm-hmm.
Et puis, il y a les régions.
Ouais.
Mais en fait, mais Montréal est une région aussi. C'est la région 06,
même
région administrative. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est même pas le numéro 1. Et on vit tout dans des régions du Québec, différentes régions. Donc, c'est plutôt comme, je pense que quand les gens au Québec disent région, ça veut dire les gens qui vivent hors centre urbain ou grand centre urbain.
Puis aussi des gens qui vont souvent être plus loin des services de santé, services sociaux, des hôpitaux.
Oui, mais pas nécessairement comme puis avoir des bons services en région, mais c'est pas comme dans une grande ville.
Mm-hmm.
On va vous parler un peu des 3 organismes qui sont dans les régions qu'on a visitées, donc Abitibi-Témiscamingue et la Gaspésie. Le premier, c'est la coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est vraiment un organisme incroyable. June, c'est un organisme qui existe depuis une vingtaine d'années déjà. C'est un organisme qui est tellement actif dans la région, c'est devenu comme un modèle pour tout le Québec. C'est un organisme qui appuie les gens de la communauté en Abitibi-Témiscamingue, qui fait énormément de formations partout. Ils ont formé comme presque tout le réseau de la santé et puis en milieu scolaire aussi. C'est un organisme de défense des droits aussi. C'est vraiment un organisme incroyable.
Le deuxième organisme, c'est Fierté Val-d'Or. C'est un organisme fondé par et pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre de Val-d'Or et des environs, qui a été fondé en 1988 grâce à l'implication sans limite de bénévoles dynamiques et engagés, comme Maryse qu'on va interviewer aujourd'hui. Donc, Fierté Val-d'Or améliore la santé et le bien-être des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre de la MRC de la Vallée d'Or, en plus de briser l'isolement en proposant des activités comme un festival de la fierté, de l'écoute et du soutien.
Le troisième organisme, c'est l'association LGBT+, Baie des Chaleurs. C'est un organisme communautaire autonome qui a pour mission de lutter contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie. Elle fait la promotion du bien-être personnel et social et de défendre les droits des personnes de SLGBTQIA+. Donc ça, c'est l'organisme qui a été fondé parmi d'autres par Brian, qu'on a interviewé. Et parallèlement, cette association travaille avec toute personne, famille ou organisme de société civile ou gouvernementale en vue de faire reconnaître et promouvoir les contributions individuelles et collectives de personnes LGBTQ+, à la société afin de projeter une image positive de la communauté. Donc, en autres mots, cet organisme fait comme énormément de sensibilisation, de outreach dans la société en général, mais aussi donne beaucoup de soutien aux personnes qui vivent en Gaspésie. Et puis, c'est un large territoire quand même, mais c'est un organisme très actif.
Le dernier mot qu'on va définir, c'est « you all lesbian ». Quand même drôle. Donc, c'est une expression qui est utilisée dans le milieu lesbien pour indiquer une relation qui franchit rapidement des milestones relationnels. Donc, ils vont rapidement déménager ensemble, se dire « je t'aime », devenir fusionnel, etc. On définit, puisque Mona en parle dans une des entrevues.
Oui.
Pourquoi ça qu'on dit « you-hauling »
Mais d'abord, June, comme excellente définition, vraiment, comme on doit mettre ça dans la rousse. Mais « you-haul » réfère à la compagnie de déménagement.
Parce qu'on dit, justement, qu'est-ce qu'une lesbienne apporte sur une deuxième date?
C'est une camion « you-haul ».
La première famille qu'on rencontre aujourd'hui, c'est celle de José et Maryse. Donc, José et Maryse, c'est les fiers parents d'une belle famille recomposée, intergénérationnelle et interculturelle. José, qui est une personne inoue, habite avec Maryse, qui est une personne allochtone, depuis 3 ans à Val-d'Or. Avant leur rencontre, Maryse était une famille d'accueil depuis déjà très longtemps. Donc, elle avait déjà 2 enfants en famille d'accueil, dont le plus jeune, A, qui est maintenant en procédure d'adoption par les 2 parents. La famille habite également avec la maman de Maryse, Cécile, et la cohabitation prend en compte les besoins spécifiques de chacun et chacune. Le couple est en relation depuis maintenant 5 ans et cohabite depuis 3 ans dans une maison intergénérationnelle qu'elles ont achetée pour répondre à leurs besoins et accueillir leur belle famille recomposée. Maryse est également à la direction de l'organisme Fierté Val-d'Or, un des 2 organismes LGBTQ+, de la région. Maryse, Mona, d'où est-ce que tu la connais?
En fait, je connais Maryse parce qu'elle est directrice générale de Fierté Val-d'Or, donc c'est un autre organisme communautaire LGBT important au Québec. Et puis, j'ai organisé, en fait, la coalition a organisé plusieurs activités familiales ensemble avec Fierté Val-d'Or. Maryse est une femme vraiment de cœur. On a beaucoup jasé à travers les années. J'ai appris son histoire et puis son histoire m'a vraiment touchée. C'est June, elle a accueilli plus que 20 enfants comme parents dans famille d'accueil.
20, wow.
Oui, c'est un grand nombre, mais c'est une femme de cœur très généreuse.
On les a rencontrés en juillet 2022 dans leur magnifique maison bleue à Val-d'Or. Comme il faisait beau, Maryse nous a montré leur cour qui était aménagée pour faire des parties. On s'est ensuite installé autour de la table à cuisine pour enregistrer une conversation des plus enrichissantes. Donc bonjour.
Bonjour.
En premier, bonjour, bonjour. Je vais vous demander de me présenter votre famille en incluant vous, tous les membres d'origine ou choisis, en incluant vos prénoms, pronoms puis toute autre information que vous trouvez pertinente.
Bien sûr, moi, c'est Josée. Donc, j'utilise le pronom « elle ». Ma conjointe Maryse, qui est avec nous.
Maryse, pronom « elle » et « elle ».
On a 3 enfants à la maison. On a aussi belle-maman. Donc, on est une famille intergénérationnelle. Diversifié, de la diversité et aussi multiculturel. Moi, je suis Innu et québécoise. Mon fils est, qui a 22 ans, est Atikamekw, Innu et québécois. Et on est aussi famille d'accueil. Donc, on en a un de 15 ans aussi qui est Anishinaabe. Et on a aussi un petit allochtone de 5 ans.
Est-ce que vous avez toujours voulu des enfants?
Ben moi, oui, j'ai toujours voulu des enfants. Puis, ça part de longtemps, parce que chez moi, mes parents ont toujours été famille d'accueil jusqu'à l'âge. Quand ils ont arrêté d'être famille d'accueil, j'avais 15 ans. Fait que, tu sais, je me disais un jour, ben, je vais en avoir, c'est sûr, dans ma famille, parce que nous, des tables de 12, 14 personnes, on avait ça à l'entour de la table pendant que j'étais petite. Là. Puis, tu sais, moi, j'étais la dernière chez nous. Tu sais, les autres sont tous plus vieux, pas mal que moi. Fait que j'aimais ça avoir des jeunes enfants à l'entour de moi. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai eu comme projet d'avoir des enfants au début. On a essayé par insémination, mais c'était avec un autre conjoint, là, c'est pas avec Josée. Puis on a essayé pendant 4 ans. Je tombais toujours enceinte, mais je le perdais toujours au bout de 4, 5, 6 mois. Mmh. Fait que quand on a vu ça, ben tu sais, moi, mon projet d'avoir des enfants, je l'avais encore. Ma conjointe de l'époque, elle avait déjà 2 garçons. Fait que tu sais, je me disais non, je veux vivre ça moi aussi. T'sais, on s'est tourné un peu vers les familles d'accueil. On savait pas dans ces années-là, t'sais, je parle au début des années 99, 2000, 2001. T'sais, on se disait, on va-tu être accepté parce qu'on est un couple de lesbiennes et tout ça. Puis finalement, écoute, on a rencontré une personne super au centre jeunesse. Et puis, c'est ça. C'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des enfants. Puis nous, ce qu'on voulait, c'est des enfants autochtones. On voulait les aider. On avait plein d'amis autochtones. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Fait que, tu sais, je suis famille d'accueil depuis 2003. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ça fait quand même 19 ans que je suis famille d'accueil. Et puis, ce projet-là, ben quand j'ai connu Josée, moi, j'ai dit, regarde, j'ai encore projet d'être famille d'accueil pendant plusieurs années. Puis, tu sais, j'ai été famille d'accueil longtemps, pendant quasiment 3 ans avant de connaître Josée seule aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'ai toujours continué le projet.
J'imagine qu'il y a beaucoup de ces enfants sont maintenant adultes. Puis, est-ce qu'ils reviennent de temps en temps?
De temps en temps, je vais avoir des nouvelles. Ça, c'est sûr, des enfants que j'ai eus. Mais tu sais, il y en a que... Tu sais, il y a des enfants qui sont partis, mettons... moi, c'était toujours des bébés que j'avais à peu près de 2 mois à 6 mois, mettons. Mais tu sais, ils partaient, il y avait 3 ans. Fait que les enfants, ils me connaissaient moins. Mais tu sais, des fois, c'était les parents qui venaient cogner à la maison. Je t'emmène les enfants, tu sais, écoute, il y en a un qui avait parti, il avait 4 ans, puis il était rendu genre à 8 ans, 9 ans. Tu sais, fait que lui, il savait pas qui j'étais, mais là, son père, il expliquait, puis tout ça. Tu sais, il voulait vraiment... fait que ça, j'aime ça pour ça, parce que, tu sais, c'est le fun de les revoir, même aujourd'hui encore, tu sais. Tu sais, on suit les powers de la région, mettons, puis on en voit tout le temps, tu sais. « Hey, toi, t'es Maryse, hein? Tu m'as déjà gardé, hein? » Non, c'est les parents. « Regarde, ça, c'est Maryse, ça vous a déjà gardé. » Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir ce lien-là encore, puis, tu sais,
oui.
C'est ça. Fait que je suis contente d'avoir pu aider les parents aussi. Parce que, tu sais, d'un côté, oui, je parle beaucoup des enfants, mais en même temps, j'aide les parents à pouvoir récupérer leurs enfants. Tu sais, moi, je veux pas garder leurs enfants. Je veux leur, tu sais, pouvoir... Comment je pourrais dire ça?
Leur donner un répit.
Ouais, c'est ça, leur donner un répit puis leur donner la chance de récupérer leurs enfants, tu sais. J'ai toujours travaillé dans ce sens-là, avec les parents et non contre les parents.
Nice.
Pour toi, est-ce que tu as toujours voulu des enfants?
Oui, moi, j'ai toujours voulu des enfants. J'en voulais plus qu'un parce que j'ai moi-même été enfant unique. Donc, avoir un seul enfant, pour moi, c'était exclu. Mais j'ai eu aussi des difficultés. Là. J'ai fait plusieurs fausses couches et tout ça. Donc, ça a été compliqué pour moi d'en avoir un deuxième. Même celui que j'ai eu, j'ai failli le perdre. Là. La grossesse était difficile. Fait que j'ai pas été en mesure d'en avoir 2. Fait que j'étais bien déçue de ça. À un moment donné, on se fait à l'idée et tout ça. Donc, c'est sûr que... puis quand j'ai eu Nigan, ben, c'était dans une relation amoureuse avec son père à l'époque. Donc, c'était pas un projet d'homoparentalité à ce moment-là. Quand je suis revenue à Val-d'Or, dans ma région natale, parce que je viens d'ici, là, j'ai rencontré Maryse et mon fils est rendu à 17 ans. Là. Donc, je pense que mon deuil est fait à ce moment-là. Mais finalement, c'est ça. Je rencontre Maryse, qui est famille d'accueil pour enfants autochtones. Donc, déjà, ça fait partie des choses qui m'ont séduite chez Maryse. Le fait qu'elle soit aussi à l'aise et confortable et intéressée par les cultures autochtones en général. Il faut dire que moi, j'ai travaillé en contexte autochtone aussi depuis toujours, depuis le début de ma carrière. sociétaire. Donc, c'est très important pour moi, cette notion-là. Encore aujourd'hui, je donne des formations sur les réalités autochtones. Donc, évidemment, ça a cliqué à ce niveau-là. Et c'est là que le projet, en fait, de poursuivre la famille est revenu sur le tapis. Donc, comme quoi, des fois, quand on lance des souhaits dans l'univers, il n'y a pas de date de...
Péremption.
Oui, il n'y a pas de date de livraison de colis, comme on dit. C'est ça. Mais ça peut toujours arriver.
Comme c'est un épisode sur les régions, je vais vous demander, présentez-moi votre région, votre parcours avec la région. Est-ce que vous avez grandi ici? Comment c'est quoi votre rapport, autant par rapport à votre sexualité, mais aussi juste à votre histoire personnelle?
Pour moi, la région de l'Abitibi, c'est important parce que j'ai vu beaucoup de gens de mon âge et tout ça partir hors région pour vivre leur sexualité. Fait que pour moi, ça a toujours été important. Puis je me suis toujours battue aussi depuis que je suis capable de le faire. Je me suis toujours battue pour les droits des LGBT ici, les droits des familles aussi. J'ai toujours été confiante là-dedans. J'ai toujours défoncé les portes. Et puis, tu sais, chez moi, on est sur 6 enfants, on est 3 lesbiennes. Mmh. Et puis, tu sais, les autres sont beaucoup plus vieilles que moi, mais c'est moi qui ai ouvert les portes à la maison pour eux, pour elles. Fait que défoncer des portes en Abitibi, je l'ai fait. Puis c'est pour ça que j'ai resté en région aussi, parce que je veux pas que les jeunes se sentent obligés de partir mmh. pour aller vivre avec une conjointe ou un conjoint ou peu importe. C'est ça. Je vais continuer pour nous battre pour la région, puis je vais continuer à parler de notre belle région ouverte. Et, c'est ça.
Vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrés?
Ben, c'est par une amie commune. Mon amie, c'était Donna. Puis elle allait à l'université, puis elle a rencontré José et tout ça. Puis un soir, ils ont été super au restaurant, à la gang de l'université, puis... Puis c'est ça, Donna, elle a su que José était bi. Fait que là, elle a dit, moi, elle dit, j'ai quelqu'un à te présenter. Elle dit, j'ai une bonne amie, puis tout ça. Puis là, José, elle dit, ben, tu sais, moi, je suis pas prête à te rencontrer. Puis, fait que là, Donna m'en parle. Fait que moi, je dis à Donna, je dis, non, moi, écoute, je veux pas rencontrer. Là, ça faisait comme 2 ans et demi, j'étais seule. Puis tu sais, j'étais bien, pareil. Puis,
un bon j'avais, beat.
C'est ça.
Mais il reste que ça a été quand même, comme Maryse le disait, on a pris quand même du temps, là, parce que moi j'avais une maison, j'avais mon fils, j'avais mon chien, mon chat, donc on ne pouvait pas cohabiter rapidement. C'est pas non. comme si on avait sauté.
Mais c'était pas ça non ouais. plus notre but. Hein. Ouais. On se l'était dit, moi, ouais. on va sortir ensemble, mais on n'habite pas encore. Mm-hmm. On va se voisiner. Mm-hmm. Mais c'est ça.
Ouais.
Ça a pris quand même.
Oui, parce qu'au d'années. Bout du compte, c'est ça, ça fait pas tout à fait 6 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 2 ans qu'on cohabite ensemble.
C'est ça,
on s'est
ouais.
fréquenté okay. quand même longtemps. Ouais, ouais. On a appris à se connaître. Donc, mm-hmm. j'étais une maman de fin de semaine pour ouais. Le petit dernier qui était déjà en famille d'accueil, ouais. mais avec qui j'ai pas habité immédiatement. Donc, c'est un peu particulier. Là, comme,
Donc, c'était pas comme le U-Haul lesbienne
stéréotypée? Non, vraiment pas. Tout. Non,
c'est
non.
justement...
Non. Puis en général, pour les gens dans la région, comment est-ce qu'ils se rencontrent? Est-ce que c'est comme via comme des amis ou...
Ben c'est beaucoup avec des amis communs. T'sais, c'est sûr, nous, Fierté Val-d'Or, oui, on est une fierté, mais c'est pas juste un festival. Là. On fait une activité par mois. Il y a juste l'été, juillet à août, qu'on fait pas aucune activité. Mais le restant du temps, on fait au moins une activité, des fois 2 par mois, pour justement aider les gens à se rencontrer et tout ça. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup, mais on n'a pas d'endroit vraiment à se rencontrer ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça donne une chance à ceux qui sont célibataires de pouvoir se côtoyer puis d'apprendre à se connaître aussi.
Est-ce que vous pourriez me parler un peu de l'histoire de Fierté Val-d'Or, autant d'où est-ce que ça vient, comment ça s'est passé?
Fierté Val-d'Or existe depuis 3 ans, vraiment sur le nom officiel de Fierté Val-d'Or. Mais la communauté existe depuis 1999. C'était 3 personnes, que j'en faisais pas partie de ces 3 personnes-là qui ont parti ça. Moi, j'étais arrivée comme dans les années 2000. C'est quelques mois plus tard.
Okay.
Tu sais, depuis ce temps-là, c'est ça. On a toujours travaillé pour la communauté. Ben, je dis travailler, mais c'est bénévole, t'sais, pour la communauté. Essayer d'organiser justement des activités pour sortir les gens de l'isolement. Parce que veux pas, en étant une région vaste, en 99, on était la seule qui existait. Ça s'appelait « Gay et lesbienne de l'Abitibi-Témiscamingue ». Mais c'est ça, à partir de là, on a été beaucoup pour le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie, transphobie. On faisait des activités On incluait aussi beaucoup les communautés autochtones. C'est ça qui était le fun parce qu'ils venaient marcher avec nous et tout ça. C'est notre première marche, on l'a fait en 2004, si je me souviens bien. Puis, tu sais, on avait à peu près 250 personnes, 300 personnes présentes. Mmh. C'était notre première marche.
Wow.
Puis ça, c'était le fun parce que, écoute, on avait parti, on avait comme, je ne sais pas combien de kilomètres de marche à faire pour s'emmener au centre-ville. Puis en arrivant au centre-ville, on se rendait à l'aréna. Et puis, on avait fait préparer un gros show de musique et tout ça. Fait que les gens, écoute, c'était vraiment quelque chose de gros à l'époque là, pour la communauté.
C'est sûr qu'en officialisant l'organisme, on fait aussi des activités qu'on organise sont plus importantes, plus grosses et tout ça. Donc, ça interpelle des gens de l'extérieur. Dans nos premiers festivals, on avait des gens qui nous disaient hey, « nous autres, on arrive de Joliette, là, on vient passer la fin de semaine avec vous autres. Hein? » Des gens qu'on connaissait pas, qu'on a découvert. On a eu un petit groupe de l'Ontario qui s'est déplacé. On a des gens de Montréal. Donc, ça,
on était avec vous
va,
l'année passée.
Oui, ouais, exactement. Oui.
Les gens adorent Fierté-Val-d'Or.
Ben oui, écoute, on est des gens sympathiques,
souriants, accueillants. C'est ça.
Ouais,
donc, c'est vraiment intéressant de voir que le rayonnement est en train de traverser les frontières.
Tu sais, pour continuer un peu, parce que le festival de juin, avec tous les partenaires qu'on a eus, on était capable de faire le festival gratuitement. Fait que ça l'a amené des jeunes avec leurs parents venir voir les shows de drag. ça l'a amené une autre facette du festival, honnêtement. Puis, tu sais, c'est sûr que pour l'an prochain, on va essayer de refaire la même formule pour que ce soit gratuit, accessible à tout le monde. Parce que juste de voir les jeunes, 10 ans, 12 ans, 13 ans, qui se reconnaissent là-dedans, qui viennent avec leurs parents en plus, mm-hmm. Tu sais, c'est comme, écoute, on a fait une table, il n'y a pas longtemps, puis on s'en fait encore parler du festival, que les parents viennent nous voir. « Hey, mon enfant était tellement content de pouvoir vivre un show de drag. »
Et les drags elles-mêmes nous disaient après le show qu'ils n'avaient jamais connu ça, avoir des fans qui étaient des fans aussi...
présents.
Oui, aussi enthousiastes. Ça. Donc, c'est intéressant.
Ça, c'est juste au show de drag, on avait 800 personnes, mais là-dessus, on a peut-être 800 personnes. Fait que, tu sais, là-dessus, on a peut-être 200 personnes, tu sais, des jeunes qui sont venus avec leurs parents et tout ça. Mm. Tu sais, c'est merveilleux, là. Et
wow.
C'est ça, oui.
Et puis, est-ce que les jeunes qui sont associés avec Fierté Val-d'Or, est-ce qu'ils parlent de comme cette idée-là de peut-être fonder une famille un jour?
Non, ça, on le sait toujours par après, quand on envoie une enceinte ou quelque chose.
Donc ils sont un peu secrets.
Oui, c'est ça, oui.
Je vais finir avec la question, est-ce que vous avez des conseils pour les futures familles LGBTQ+, en région? En Abitibi précisément même, si vous voulez.
Ben, tu sais, moi, si je vais avec mon parcours, c'est « faut pas lâcher ». On a un rêve d'avoir des enfants, peu importe la façon qu'on va les avoir. Je pense que c'est bon de jamais lâcher puis d'aller vers l'avenir avec, c'est ça, puis se voir avec une trolley d'enfants.
Moi, j'aurais envie de dire, inquiétez-vous pas. Maintenant, là, c'est l'époque pour avoir ce genre de projet-là. Il y a des ressources disponibles, il y a moyen de moyenner, comme on dirait. Inquiétez-vous pas aussi pour... le développement de votre enfant, il va être bien reçu, l'école va bien réagir, le voisinage va bien réagir. Soyez vous-même, restez... tu sais, quand on est des gens sympathiques, je pense qu'on attire les gens sympathiques aussi, puis ça se passe bien. On a souvent beaucoup trop d'inquiétudes pour les difficultés qui vont finalement arriver. Hein? Il y a beaucoup moins de difficultés qu'on l'appréhende.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous.
Oui, c'est un plaisir.
Merci, c'est super.
Vous reviendrez quand vous voudrez. Pour moi, la famille, c'est un lieu de refuge. C'est l'endroit où, peu importe la journée qu'on a passée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'on va aboutir, qu'on va atterrir, qu'on va se déposer.
Encore une fois, un super entrevue. On n'arrête pas d'en avoir des bonnes.
Oui, on est pas mal.
On est pas mal. Merci beaucoup à Marise et José pour l'entrevue. Mona, y a-t-il des choses que tu as retenues davantage dans cette entrevue-là?
Ce que j'ai appris et ce que j'ai aimé beaucoup était l'importance des connexions que ces femmes ont avec les communautés autochtones. Parce que les enfants qu'elles accueillent viennent de ces communautés-là. Donc, c'était important, pas de nier ces communautés-là, mais vraiment de souligner l'importance de ces communautés en termes de l'identité de ces enfants, en termes de leur culture, puis les valeurs, puis tout ça. Donc ça, c'était très, très, très évident dans l'entrevue. Puis l'autre chose, c'était peut-être leur rôle comme parents d'accueil. Donc, c'était pas comme pour comme vraiment prendre toute la place dans la vie de ces enfants, mais vraiment d'aider ces enfants à retourner éventuellement dans leur famille d'origine. Et toi, June, qu'est-ce que toi t'as appris dans cette entrevue?
L'importance du support des alliés. En faisant toutes les entrevues en fait dans les régions, ce que je me rends compte, c'est l'importance des alliés en région. Maryse nous parle un peu de comment beaucoup des activités, il y a majoritairement des alliés, donc des personnes qui ne sont pas de la communauté, et que en se pointant, en montrant qu'ils sont des alliés, mais ça fait que les gens de la communauté se sentent plus confortables en fait d'être qui ils sont.
Oui, c'est intéressant parce qu'à Montréal, en fait, on a une tendance à faire des activités non mixtes, dans le sens qu'il n'y a pas des alliés, c'est juste des personnes de la communauté LGBTQ+. Puis on devrait penser à faire ça plus fréquemment parce que les alliés sont tellement importants.
C'est vrai. La deuxième famille qu'on rencontre aujourd'hui, c'est celle de Amélie et Julie, qui ont créé leur famille par le biais de la banque mixte. Aujourd'hui séparés, les co-mamans ont maintenant de nouvelles conjointes qui, même si elles ne participent pas officiellement à l'éducation du petit, participent plusieurs fois par mois à des activités familiales tout ensemble. D'où est-ce que tu connais Julie, Mona?
Julie est la directrice générale de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle d'Abitibi-Témiscamingue, donc un autre organisme important LGBT dans notre écosystème. Et aussi, on est très chanceux de l'avoir sur le conseil d'administration de la Coalition des familles LGBT+. Et je dois dire, comme directrice de mon propre organisme, c'est toujours comme un bonbon d'avoir un autre directeur ou directrice sur le CA.
En juillet 2022, on les a retrouvés au bureau de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Après avoir reçu en cadeau de jolis bas bien chauds avec le symbole du drapeau transgenre et de la fierté LGBTQ+, on s'est installé dans la salle de conférence pour enregistrer la conversation qui suit. Alors, bonjour.
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 Allô.
Allô! On est vraiment content aujourd'hui d'être à Rouyn-Noranda pour interviewer deux personnes qui vont se présenter d'une seconde à l'autre. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez me présenter votre famille en incluant vos prénoms, vos pronoms puis toute autre information?
Alors, je m'appelle Amélie, mon pronom c'est elle. Et puis, ma famille, ben, j'ai un petit bonhomme de 7 ans qui est dans ma vie puis dans celle de Julie depuis 2015. Et puis, ben, j'ai ma co-maman. Précieuse co-maman, Julie. Et puis, j'ai une famille en constante évolution. Donc, j'ai aussi aujourd'hui une conjointe depuis 2 ans, Roxane, et qui est sa grande fille de 10 ans. Donc, ils font partie de notre quotidien. Et puis sinon, je suis également vétérinaire. Je travaille en santé publique. Et puis, ça fait pas mal le tour.
Alors, qui suis-je, Julie? Maman du même enfant qu'Amélie. Hein, comme elle l'a dit, on est co-maman. Donc, je suis une maman, je suis également une amoureuse. Et puis, dans ma vie de tous les jours, je suis directrice générale de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue.
Merci, Foul. La prochaine question, vous pouvez la répondre soit ensemble, individuellement. C'est est-ce que vous avez toujours voulu des enfants?
Je me lance. Si je suis vraiment sincère, là, ça a été long avant que je me dise que je voulais avoir des enfants. Je pense que c'était teinté du fait justement que je faisais partie de la communauté, puis je me disais ça va être trop compliqué, donc c'est pas quelque chose auquel je peux avoir accès. T'sais. Fait que j'avais comme juste mis ça de côté en me posant pas réellement la question en fait. T'sais. Est-ce que je veux des enfants ou non? C'est comme non, ça fera pas partie de mes possibilités. C'est sûr que quand j'ai rencontré Amélie, mais c'est rapidement, dans les 2 premières années, peut-être qu'on a quand même eu des discussions à savoir, OK, est-ce qu'on va se rendre là un jour? Puis bien, on a eu la discussion officielle à un certain moment donné.
On a d'abord vérifié si on était capable de s'occuper des animaux de compagnie, puis après ça...
Un classique.
Voilà. Une étape à la fois.
Le chien, la maison, puis après ça...
Ouais, puis en fait, on est allé intense, parce que moi, j'avais déjà 2 chiens, 3 chats, Amélie, 3 chats, donc quand on a mélangé tout ce poil-là... Fait que ça a été un bon test.
Toi, Amélie, est-ce que tu as toujours voulu des enfants?
Moi, j'ai toujours voulu des enfants, puis je le savais. Par contre, ce qui a changé au fil du temps, c'est que assez jeune, je me doutais que je faisais partie de la diversité, mais bon, j'ai quand même traversé plusieurs étapes. Puis, à tout moment dans tout ça, je voyais pas comment je pourrais avoir des enfants. Je me projetais pas. Donc, je me disais, je vais avoir des enfants seuls. Ouais. Puis, j'avais pas de modèle, en fait. Là. C'est essentiellement ça. J'avais pas de modèle ben autour de famille homoparentale ou famille différente. Et puis, un jour, ben, c'est ça. J'ai connu Julie. Puis là, tout d'un coup, ça s'est... Au fil du temps, ça s'est présenté. Puis, c'est devenu réaliste, alors que ça l'était pas avant ça. Je pensais que je ferais ça toute seule.
Si vous pouvez me parler un peu de votre projet parental, comment ça s'est passé?
Bien, en fait, on a essayé de différentes façons. Au tout départ, on est passé par la voie médicale. On a voulu qu'une de nos deux porte, dans ce cas-ci, c'est moi. Donc, j'ai fait des démarches, puis pendant plus ou moins un an, on a fait des inséminations.
Donc, ici à Rouen.
Ici à Rouen, oui. On a la possibilité, la facilité là, de ces options-là ici, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes en Abitibi. Là. Mais nous, il y a un bon service de fertilité.
Donc, moi, je suis arrivée avec une autre alternative d'y aller, de faire des démarches avec les centres jeunesse, avec la DPJ, en fait. Donc, on est allé se renseigner, on a rencontré des intervenants, intervenantes. Puis, on a décidé que, ben oui, ça pouvait être une belle alternative. En fait, on a fait toutes les démarches, puis on a été accrédité comme famille d'accueil via la banque mixte. Puis, rapidement, ça a pris environ 9 mois, le temps d'une grossesse.
Ben, c'est ça.
Puis, on accueille. Wow. Ça, c'est rapide, pour
oui,
vrai.
C'est
ça,
entre oui. le premier téléphone, puis l'arrivée du petit, c'était 9 mois. Wow.
Que vous voulez me jaser un peu de votre coparentalité, de comment ça a été perçu, de comment vous naviguez tout ça en tant que co-maman, en fait.
Ouais. Ben, oui, certainement. On a été ensemble, on a accueilli le petit en 2015, puis on s'est séparés, en fait, en 2017. Fait que depuis ce temps-là, au fil des années, on a eu, disons, comme n'importe quelle séparation, une première année un petit peu difficile et beaucoup d'émotions dans tout ça. Ouais. Mais on a rapidement, ou en fait immédiatement, on s'est entendu pour mettre les intérêts de notre enfant en premier. Mm-hmm. Et puis, c'est quelque chose qui s'est facilement... placé au fil du temps. Et puis finalement, ben, on est devenus des co-mamans. Puis c'est comme ça qu'on se présente. Au début, l'expression était un peu, c'est ça, un peu surprenante. Puis maintenant, ben, ça fait partie du langage. Là. Mais c'est ça, on est passé de couple à co-maman assez rapidement. Curieusement, tu sais, quand l'année où on s'est séparés, disons que j'allais chercher le petit au CPE, puis bon, j'étais pas à l'aise de parler de Julie, d'en dire mon ex. Bon, il y avait quelque chose dans la charge de ce mot-là, avec lequel on n'était pas à l'aise, puis on a rapidement fixé ce langage-là qu'au moment, puis c'est devenu ça. Puis on a créé des liens différents, mais très forts, qui font que maintenant, je pense qu'on... On offre ben, peut-être pas un modèle, là, mais tu sais,
je suis à l'aise de le dire que oui, qu'on offre un modèle. Puis je tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement, on en parlait un peu, puis tu disais que tu sais, avant même d'avoir avant de penser avoir des enfants, on s'était dit, tu sais, si on se laisse, on va rester proche, tu sais. On avait comme, pas qu'on avait établi les bases, mais je trouve qu'en tant que couple, on le fait pas, ça, de dire, bon, mais tu sais, si jamais on se laisse, ça va ressembler, tu sais, ça pourrait ressembler à quoi notre relation, tu sais. Puis je trouve que c'est important quand on a des enfants, tu sais, faut en parler quasiment avant parce que si ça fait partie d'une réalité, on veut jamais ça quand on commence à être en couple, mais on se cachera pas que.
C'est très possible.
C'est très possible, tu sais.
Oui, les choses arrivent dans la vie. Oui. Puis comme il faut être réaliste.
Étrangement, on est capable de le faire quand il est question de notaire puis d'hypothèque de maison. On est capable de dire, bon, ben voici comment ça va se passer si on se sépare. Mais quand il y a une question d'avoir un enfant, c'est pas...
C'est plus
difficile. Voici comment ça va se passer si on se sépare. C'est une autre... ça vient moins spontanément. Mais pas qu'on ait eu cette conversation-là, bien souvent, mais ça reste que c'était clair, je pense, pour nous autres. Puis ça s'est bien placé au fil du temps. Puis on est devenu, c'est ça, on s'est installé à proximité. On avait une maison à la campagne, comme je le disais tantôt. Puis là, ben, finalement, j'ai déménagé en ville. Ensuite, l'année suivante, elle a déménagé aussi. On s'est installé à proximité. Et puis, ça nous permet, on passe régulièrement du temps ensemble. En fait, à toutes les semaines, on a des occasions, ne serait-ce que quand on fait l'échange du petit, des occasions qu'on passe tous les trois ensemble, maintenant tous les cinq ou les six ensemble aussi, parce qu'il y a des nouvelles personnes dans nos vies respectives qui sont à l'aise, qui sont heureuses aussi dans ce scénario-là. Puis ça, c'était essentiel. C'était un critère pour avoir une nouvelle personne. Pour moi, dans ma vie, il fallait que ce soit quelqu'un qui allait accepter le fait que Julie restait là, allait être importante tout le temps, puis pas juste parce qu'on partage un enfant, mais parce qu'on partage une histoire, puis qu'on a une relation d'amitié. Là, qui...
Oui, des fois, ça arrive que je vais prendre un verre de vin quand le petit est couché. Puis... mais en effet, c'est important quand on a tous les deux rencontré nos nouvelles conjointes, ben, ça a été comme le critère numéro un. T'sais, voilà, moi, j'ai un enfant, mais j'ai aussi
sa mère
qui est hyper présente. Donc, tu sais, tu deals avec ou tu deals pas avec, là. Puis on est chanceuse parce que les deux conjointes qu'on a sont super ouvertes. Puis ça facilite beaucoup le rôle de co-maman aussi. Mm-hmm. Parce que c'est comme... Il y a pas de façon de passer à côté de ça, tu sais. Mm-hmm. C'est un incontournable, en fait. Donc, c'est pour nous, pour moi aussi, c'est rassurant de savoir, tu sais, que ma blonde est à l'aise, tu sais. Ouais.
Mm-hmm. Puis est-ce que les deux nouvelles conjointes jouent des rôles parentaux avec votre fils ou...
À certains égards, oui, de plus en plus. Moi, ça fait un petit peu plus longtemps là, que je suis avec mon actuel conjoint. Puis oui, maintenant. Puis elle aussi, une grande fille de 10 ans. Donc, c'est ça, la relation avec les deux enfants, tout ça, c'est comme n'importe quelle famille recomposée, là, ça se tisse au fil du temps. Puis là, on s'installe ensemble. Donc, fait que oui, un rôle parental qui n'est pas le même que ses mamans, là, mais quand même, là.
Ben, inévitablement, je pense que oui, quand il y a un adulte qui a une relation avec qui a une certaine responsabilité face à un enfant, ça vient inévitablement avec certains rôles parentaux, surtout quand on est très près de cette personne-là. Mais pour notre part, les deux, c'est pas les belles mamans nécessairement. Là, ils se présentent pas comme ça, ils utilisent leur prénom, puis c'est correct. Puis nos rôles sont très clairs aussi. Autant du côté de nos conjointes que de nous. Fait que, il y a un équilibre qui s'est fait aussi de façon très naturelle. On n'a pas eu besoin de dire « OK, ben, toi, c'est tes responsabilités, puis ça, c'est les miennes. » Ça se fait vraiment naturellement.
Et puis, votre séparation n'a pas eu un impact sur votre adoption?
Non, ça, c'est intéressant.
On a eu peur au début. Hein? On s'était construit, je pense, par nous-mêmes des craintes à ce niveau-là, mais on a eu peur de voir l'impact que ça pourrait avoir parce que l'adoption via le processus de la banque mixte, c'est un long processus. Et puis, qui s'échelonne sur plusieurs années, puis bon, par étapes. Et puis, le moment où c'est arrivé dans notre vie, ça faisait plus ou moins 2 ans que le petit était avec nous. On craignait que ça puisse compliquer les choses. Puis, on se disait, si après ça, on se rend à l'adoption. À ce moment-là, c'était pas encore canné, en bon français. Donc, si éventuellement on se rend à l'adoption, est-ce qu'on va pouvoir adopter toutes les deux, même si on n'est plus en couple? Fait que c'est un paquet de questions qu'on s'est posées, qu'on a creusées ensemble. Puis peut-être que toutes ces craintes-là, cette réflexion-là, nous a aidé aussi à reconstruire un lien différent entre nous. Là, le fait qu'on a vécu ça très intensément, là, cette crainte supplémentaire-là que les familles... Que les familles nucléaires traditionnelles ne se posent pas nécessairement, même si éventuellement il y a séparation.
Ben oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'on voulait l'adopter les deux aussi. On voulait être légalement deux mamans. Mais donc, on a été super encore là une fois très bien encadrés puis appuyés par les personnes qui travaillent pour le centre jeunesse. Puis on fait les démarches. Puis on a finalement, oui, c'est très possible que les deux, on soit sur les papiers d'adoption. Même super. En étant séparés. Oui, puis ils connaissaient aussi depuis longtemps, c'est ça, notre réalité aussi. Là, quand on en est venu à faire la demande d'adoption, ben ils savaient déjà qu'on était séparés, fait qu'on ne pouvait pas nécessairement revenir en arrière.
Puis dire qu'on était... C'est ça.
Qu'est-ce qui vous rend fier de votre famille?
Je suis très fière de la famille qu'on a fini par, dès le départ, la famille qu'on a formée, mais ce qu'elle est devenue aujourd'hui, elle est plus grande qu'elle l'était avec notre petit noyau de trois au début. On est six dans cette espèce de noyau-là que je considère être notre noyau familial. Même si on n'habite pas tous ensemble, puis je veux dire, c'est ce noyau-là, on fête Noël ensemble, puis je suis très fière de ce qu'on a fait. Je pense qu'il faut être fière de la famille qu'on construit, peu importe la forme qu'elle prend. Mm-hmm. Pour moi, la famille, c'est les pièces d'un casse-tête qu'on assemble au fil du temps, puis qui peut changer, qui va toujours évoluer.
Une autre entrevue très bien faite. Mm-hmm. Oui, oui, très intéressant et des témoignages superbes. Donc, June, toi, qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu as constaté avec cette entrevue?
Ce que j'ai aimé, c'est leur relation à la coparentalité, de comment, malgré leur séparation, ils ont réussi à construire une coparentalité puis une joie, en fait, d'être coparents, qu'elles sont amies, maintenant avant tout, et parents, co-mamans, comme elles disent.
Oui, c'est un modèle tellement incroyable parce qu'on voit malheureusement beaucoup de chicanes entre les ex-conjoints et ex-conjointes, mais là, c'est formidable.
Mm-hmm. Toi, maintenant, y a-t-il quelque chose que tu as retenu?
Et je dois dire, comme fille de la ville, parce que je m'assume, mais j'ai aussi compris que Rouyn-Noranda est vraiment une place cool pour élever des enfants. Mm-hmm. C'est tous les avantages de vivre à l'extérieur d'une grande ville, mais en même temps, il y a une vibe très progressiste à Rouyn. J'adore leur bar, leur restaurant, leur librairie de gauche aussi. Et on me dit que les festivals de l'été sont superbes.
Une super ville, une ville qui serait encore mieux si Glencore commençait immédiatement à réduire des émissions polluantes de la fonderie Horn.
Oui, big time.
La dernière personne qu'on rencontre, c'est Brian. Brian et son partenaire, Leonard, sont ensemble depuis déjà 25 ans et vivent à Bonaventure depuis 2006. Brian a eu un fils, préalablement, dans une relation hétérosexuelle traditionnelle, dans un contexte où l'homosexualité était tabou. Fait que Mona, d'où est-ce que tu connais Brian?
Et je le connais à travers la communauté, la vie associative. Brian était très actif dans l'Association des Chaleurs, très actif dans la communauté en général, la Gaspésie. Et il a fondé le groupe. Il était sur le CA du Conseil québécois quand j'étais là aussi. Il est impliqué dans un projet de recherche sa vie à l'UQAM, qui est vraiment un grand projet. Donc, on siégeait sur ce projet ensemble. C'est une personne qui pour beaucoup d'années, était un peu partout. Et vraiment, Brian est une personne qui est très sensible, qui est capable d'écouter les points de vue de différentes personnes. Mm-hmm. Et je dirais que c'est une personne qui est une peacekeeper, donc une personne qui peut comme rallier les différents points de vue et puis aller vers comme des solutions constructives quand il y a des désaccords.
Mm. C'était beau aussi de vous voir parce que clairement, vous êtes amis. Puis on peut le sentir dans
l'entrevue. Je l'adore.
Mais oui, c'est ça. Puis je trouve ça toujours le fun quand on interviewe des amis de Mona. Ça rajoute un petit quelque chose.
Oui.
On l'a rencontré en août 2022. Brian nous a donné rendez-vous au site de la Pointe d'Outils, Neswegg, à New Richmond, où Brian et Leonard font beaucoup de bénévolat. C'est un mini-village et un musée de maisons centenaires. On en a profité pour visiter l'exposition avant de nous installer dans une des maisons pour enregistrer la conversation qui suit. Alors, bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
hello.
Brian.
Salut.
Mona, aujourd'hui, on a le plaisir d'être où?
À New Richmond, en Gaspésie.
Dans la baie des Chaleurs.
Et Brian, tu nous as invités où exactement?
On est à Pointe-Daté. C'est un site qui est consacré à souligner l'importance de la communauté anglo-saxonne dans la région de la baie des Chaleurs depuis la fin du 18e siècle. Et il y a une riche histoire de cette pointe parce qu'on l'appelle aussi Neswegg en Micmac, qui veut dire lieu de rencontre, de rassemblement, parce que les Micmacs c'est la communauté voisine de la Pointe Dottée. Ils sont juste de l'autre côté de la rivière Cascapédia ici. Et ils se réunissaient à la Pointe Dottée ou sur la plage, à l'embouchure de la rivière Cascapédia. Et donc, on a réutilisé ce nom-là avec Pointe Dottée, donc Pointe Dottée-Nesweg.
On enregistre en ce moment dans une maison ancestrale.
Oui.
Donc, si vous entendez des craquements, si vous entendez des choses, vous savez d'où est-ce que ça vient.
Des fantômes.
Oui.
Déjà, on va se demander c'est quoi la voix mystérieuse qu'on entend depuis tantôt. Donc, je vais te demander de te présenter. Donc, Brian, ton prénom, tes pronoms, qui est-ce que t'es?
OK, mon prénom, c'est Brian,
oui. Comme
tu l'as bien dit.
Oui.
Mon pronom, c'est il, et je suis ici en Gaspésie. Je suis de retour en Gaspésie depuis maintenant 16 ans, quand j'ai pris ma retraite de la fonction publique fédérale à Ottawa. Mm. Donc, je suis revenu chez moi. La baie des Chaleurs, c'est mes origines familiales. Je suis né à Gaspé. Mes parents, ma mère de Bonaventure, 100% acadienne, et mon père de New Richmond, et je dirais 85% acadien.
Mmh. Et puis, tu étais ici jusqu'à quel âge?
J'ai quitté, après le cégep, j'ai quitté à 20 ans. J'ai fait partie de la première cohorte du cégep de la Gaspésie à Gaspé.
Oh, wow.
Ouais, oui, oui. C'était deux années absolument magnifiques pour à peu près tous les étudiants que nous étions. On avait une cohorte de jeunes professeurs qui arrivaient de l'extérieur. On fumait en classe. C'était notre mai 68 en septembre 68. Il y a toujours un petit décalage en Gaspésie. Et donc, j'ai quitté à 20 ans après le cégep pour l'Université d'Ottawa. Et là, j'ai fait mon bac en histoire. Et dans la deuxième année de mon bac, je me suis marié. Et j'ai eu un emploi au gouvernement fédéral pendant 34 ans.
Wow!
Et après ça, je suis revenu en Gaspésie.
En Gaspésie, tu as été longtemps à l'organisme?
J'étais un des... on était plusieurs membres fondateurs en 2011, mais on avait fait un travail préparatoire avant pour mobiliser, voir si les gens étaient intéressés à... créer une association, à quelque chose, d'avoir un peu plus de visibilité. Et finalement, on a eu l'assemblée de fondation de l'organisme LGBT en novembre 2011. Mm-hmm. Et après ça, j'ai été coordonnateur pendant 10 ans.
Mm-hmm. Ouais. Donc, tu as une bonne connaissance des enjeux LGBT en Gaspésie?
J'espère.
Oui,
je pense que oui, j'ai une certaine expérience.
Humble.
Tu peux l'assumer.
Vous avez sûrement remarqué qu'il y a une camaraderie entre Brian et Mona.
Parce,
oui. que, vous voulez, mais, parce que là, on jase, on vous
oui.
entend. Et d'où est-ce que vous vous connaissez?
Ben, le premier contact, c'était le premier colloque en 2014.
Pas avant ça? Mais tu étais aussi parti. Sur le CA du Conseil québécois.
Oui, mais après.
Après, avec toi, que j'inverse
en 2015.
L'histoire. Parce qu'on était sur le CA
oui.
ensemble.
De 2015 à 2020.
Oui. Donc, oui. peut-être c'est sûr que le colloque, c'était comme la première fois qu'on a passer un peu plus de quelques jours ensemble.
Bon, on n'a pas pu échanger beaucoup parce que moi, j'étais dans la coordination
oui.
et j'étais,
j'étais brûlée.
Oui.
Mais de mon côté, oui. c'était comme une de mes expériences communautaires les plus positives de toute ma carrière, oui. ce congrès-là qu'on a eu.
Ah,
c'était fabuleux.
C'était absolument magnifique. Ça a fini par une tempête de neige.
Oui.
Tout le monde a dû
oui.
partir.
Le 31 octobre.
Oui, et juste pour l'anecdote, parce que c'est vraiment très touchant, on avait une délégation qui est venue au colloque de 10 participants des îles de la Madeleine mm-hmm. qui, quand ils sont montés dans l'avion, ne se connaissaient pas en tant que membres LGBT. Ils sont arrivés, puis quand justement on a eu cette tempête le dimanche à la fin du colloque, leur avion aussi pour les îles a été annulé. Mm-hmm. Et finalement, on a trouvé un gîte dans le village de Bonaventure, qui était la propriétaire était la sœur d'un des couples qui était venu
wow.
au colloque.
Of course.
Et là, on a dit, mais on ne fait pas 10 personnes aller vous... Ben ils ont décidé qu'ils allaient passer la dernière nuit ensemble, les 10, dans le gîte. Et une des anecdotes, il faut que je la raconte, parce
ben,
que un des participants avait fait son coming out à 50 ans à peu près. Et il dit, ce soir-là, j'ai dû retourner dans le placard parce que c'est là qu'il a dormi.
Oh.
C'était la seule place qui restait. Puis le lendemain, il était tout fier de nous dire, je suis retourné dans le placard pour la nuit.
Oh.
Puis le lendemain matin, à 9h, on est tous allés les reconduire à l'aéroport et c'était comme un moment extrêmement émouvant.
Est-ce que tu as toujours voulu des enfants?
Bon, moi, je me suis marié à 20 ans.
Mm-hmm.
Je suis devenu père, j'avais pas encore mes 23 ans. il n'y avait pas vraiment d'autre option, je veux dire, de penser, envisager, vivre mon orientation sexuelle. C'était tellement enfoui. Non, c'était pas possible. C'était pas une référence, c'était pas un modèle, il n'y avait rien. Mais je dois quand même dire que la femme que j'ai épousée et puis avec qui j'ai été pendant 24 ans, c'est une femme que j'ai aimée. On avait une chimie ensemble. On était de grands amis, de bons collaborateurs. On se soutenait beaucoup. Puis on a fait un enfant. Puis on a un merveilleux enfant. Puis j'ai une merveilleuse petite fille de 12 ans aussi. Ça fait que bon, j'ai le meilleur des deux mondes.
Oui.
Mais l'idée d'avoir des enfants, c'était pas une préoccupation à 18, 19, 20 ans. Mmh. Là. Je me suis marié à 20 ans. Puis on a dit, OK, on veut 4 enfants. Puis bon.
Ça va être ça.
On en a eu un.
Le fait d'avoir vu les premières familles LGBT dans ta vie, est-ce que ça a fait comme ça aurait pu être moi?
Je pense que ça demande une conscience de la chose. Puis je me suis pas posé de questions comme celle-là. C'est plus à la fin de la trentaine, je me suis aperçu que je pourrais pas continuer comme ça à ne pas être qui je suis. Mm-hmm. Ben, c'était je jouais un rôle, puis c'était pas honnête, c'était pas ouvert. Puis ça finit inconsciemment, ça finit par peser très lourd sur une personne. Et donc, à 40 ans, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. En fait, je me suis donné 5 ans. Puis c'était drôle, hein? Je me suis dit, je me donne 5 ans pour divorcer de ma conjointe et de mon fils.
Parce que tu voyais comme ton homosexualité comme un
ben,
empêchement.
Je le voyais comme... Tous les hommes de mon âge voyaient que c'était comme c'était la fin du monde. Mm-hmm. Vraiment. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était pas acceptable socialement.
C'était en quelle année, si je peux.
À 40 ans, c'était en. Attends une minute, là. 80. 80 mm-hmm. Non, 90. 90. Et finalement, je me suis séparé en 95.
T'as fait 5 ans.
5 ans, oui, oui, oui. Mm-hmm. Oui. C'était un long cheminement. Aujourd'hui, je me dis si j'en avais parlé, je suis convaincu que j'aurais eu le soutien de ma conjointe.
Mm-hmm. Il manquait ton soutien à toi, interne.
Oui, c'est ça. Moi, je n'avais pas le courage de le faire. Et puis, ça a été, c'est ce qui est vraiment le plus difficile, c'est d'abord d'accepter puis de faire le coming out. Moi, je l'ai accepté, mais je n'ai pas fait mon coming out. J'ai été outé, comme on dit. Fait que là, c'est sûr que quand ça arrive, tu n'as pas le choix. il faut lancer un communiqué de presse. Mm-hmm. Alors là, ça a été cette période-là. Mais après ça, ça a été plus facile parce qu'évidemment, j'ai pas été rejeté, j'ai pas été ostracisé d'aucune façon, j'ai été accepté. Mm-hmm. Le plus difficile, ça a été ma mère. C'était en 97-98, donc elle avait 88 ans. Elle aussi, elle a fait son bout de chemin, puis elle a consulté, puis finalement, Leonard, c'est devenu un grand allié aussi pour elle.
Alors, c'est beau ça.
Ben oui, très beau. Oui. Et c'est pour ça que quand on est revenu en Gaspésie en 2006...
Ça, vous n'êtes pas rencontré en Gaspésie, vous êtes rencontré...
Non, on s'est rencontré à Ottawa.
C'est
ça. Ma mère habitait toujours ici. Mm-hmm. Et là, on a passé les 5 plus belles années qu'on pouvait penser vivre avec ma mère, à s'occuper d'elle tous les jours, puis... Elle a passé les 10 dernières semaines de sa vie chez nous en soins palliatifs, aidée de Leonard, ma sœur et moi.
C'est magnifique.
Bon, ouais, j'ai une très belle histoire. Je peux pas être malheureux de ce que j'ai vécu, même s'il y a eu une période difficile, mais bon, c'est formateur.
Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui pensent à faire leur coming out?
La première chose qui m'est venue à l'idée, gaspillez pas votre vie à rester dans le placard parce que vous passez à côté de votre vie. Mm-hmm. Et c'est drôle, j'ai un cousin qui a fait son coming out aussi il y a quelques années. Il a été marié longtemps, il a des enfants. Bon, sa conjointe est décédée, mais je pense que sa conjointe et lui... Il s'était ouvert à elle avant qu'elle décède. Mm-hmm. Et il a fait son coming out après. Mm-hmm. Mais il avait 60 ans, je pense. Mm. Mais j'en connais d'autres qui continuent à réussir à vivre dans cette fermeture par rapport à eux-mêmes. et je ne sais pas comment ils font pour maintenir l'équilibre. Mm-hmm. Moi, à 40 ans, c'était devenu trop fragile et dangereux. Mm-hmm. Et mais c'est là qu'on se rend compte aussi que quand on fait notre coming out, qui nous aime vraiment? Mm-hmm. Et je me suis aperçu que mes frères et ma sœur et ma mère m'aimaient beaucoup.
Parce que tu es toujours la même personne.
J'ai pas
mais
changé.
Plus authentique, en fait.
Oui, plus de cacheterie. Et c'est ça, mais chacun doit trouver sa porte de sortie s'ils veulent la prendre. Ça peut être tard, ça peut être plus tard encore. Et j'oublierai jamais, on a eu un contact à un moment donné d'une personne qui voulait sortir du placard, mais comme personne trans. Mm-hmm. Qui a commencé son hormonothérapie à 68 ans. Mm-hmm. Et on a eu un beau message à un moment donné. J'ai reçu l'avis de la psychologue. C'est le plus beau cadeau de Noël.
Mm-hmm. Wow.
Excusez. Mm-hmm. C'est un moment important pour nous autres. Mm-hmm. Next question. C'est vraiment, bravo, ça remontait à la surface, puis c'était vraiment...
Cette association a comme aidé tellement de personnes et continue à aider des personnes à changer de vie.
Oui. Pour moi, la famille, c'est complexe. Que ce soit une famille choisie ou biologique, mais c'est le soutien.
Vraiment une belle entrevue. J'ai adoré. J'ai aimé comment Brian s'est ouvert à nous. Mm-hmm. Il a parlé des différentes phases de sa vie. C'était une entrevue personnelle aussi.
Très
touchante. Donc, June, qu'est-ce que toi, tu as appris de cette entrevue-là?
Ce que j'ai retenu surtout, c'est tout le parcours en fait que Brian a fait, puis qu'il y a plein d'autres personnes aussi qui ont fait leur coming out plus tard, donc après 40, 50, 60, 70 ans. Je trouve que c'est vraiment beau que Brian nous a parlé de ça. Il parle aussi du parcours d'une femme trans qui a commencé ses hormones après 60 ans et on voit comment ça l'a touché. Je pense vraiment que c'est important en fait de se rappeler comment les choses n'ont pas toujours été comme ils sont aujourd'hui puis de travailler pour qu'ils soient encore mieux demain. Toi, Manon, est-ce des choses que tu as retenues?
Mais c'était encore sur l'histoire perso de Brian, donc son retour en Gaspésie, qui était vraiment un retour aux sources, de reconnecter avec ses racines, sa filée très naturelle.
C'est ce qui conclut le 14e épisode de notre podcast. Merci énormément encore à Brian, Maryse et Josée. Et Julie et Amélie. J'ai une petite question pour toi, Mona.
Mm-hmm.
Comment penses-tu que la question des familles LGBT+ et des régions va évoluer dans les 25 prochaines années?
Oui, en fait, je crois qu'on voit déjà un changement qui commence parce qu'il y a de plus en plus de familles qui quittent les grandes villes pour aller en région, pour vivre leur vie familiale à l'extérieur d'un grand centre urbain. Et je crois que ce que ça va faire, c'est que ces familles-là, ces parents, en fait, vont amener un peu leurs attentes de vivre dans une grande ville, mais vers les régions. Donc, ils vont attendre que ça soit diversifié, qu'ils vont être pleinement acceptés, qu'il y aura une ouverture, qu'il y aura une diversité culturelle. Donc, je pense que l'expérience de ville et puis de région va se rapprocher. Mm-hmm. On va voir comme moins comme ce feeling qu'on a parfois actuellement de solitude, que ce sera moins comme ville versus région et puis une plus grande cohérence.
Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, au même jour et à la même heure, pour la 2e partie de ce duo d'épisodes sur la réalité des familles LGBTQ+, en région. Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.